Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h tout pile sur RMC, on est dans Roten sans flamme spécial Coupe du Monde avec Jean-Louis Tour en direct de Doha, avec Jean-Michel Larquet. Et on accueille notre légende de RMC,
Ah oui.
De l'after. Ben oui, c'est Daniel Riolo. Salut Daniel.
Ouais, Jérôme, c'est gentil, merci beaucoup.
Oui,
hein.
Écoute,
la légende du journalisme.
Ça fait 20
bien
ans.
Bien sûr.
Ouais, bon, allez.
Ça fait 40 ans qu'il travaille.
qui travaille.
Légende du journalisme, n'oubliez jamais que Jean-Michel Larquet n'est pas que consultant, il est journaliste.
Ah oui.
Ouais, mais n'oubliez jamais ça.
Alors il m'a dit qu'il n'avait plus de carte de presse.
Ben, peut-être qu'il ne l'a plus, mais au début bien de sûr. Sa carrière, il avait fait en sorte que.
Ouais. Tu vas pas nous expliquer la vie de Jean-Michel, on la connaît par cœur. Ouais.
Non, moi je la connais mieux que vous parce qu'il est plus de ma génération.
Ouais, d'accord.
C'est, voilà. Vrai, c'est important de le rappeler.
C'est,
mais
bon. C'est le premier joueur que j'ai imité sur un terrain.
Vous me négligez.
Ah, tu l'as imité sur un terrain ?
C'est le premier joueur que j'ai imité, c'est lui.
C'est-à-dire, t'as jamais taclé du coup ?
Comment ça se fait ? Mais tu l'as imité comment ? Il y avait pas de.
Bah, Saint-Etienne-Liverpool 77. Voilà.
Ah, il y avait des images encore ?
Il y avait des images en couleur même.
Alors, messieurs.
En couleur.
Ah oui.
Dans l'heure qui vient, dans Roten sans flamme, Julien Cazard sera là à 19h30, bien sûr. Ouais, à partir de demain, d'ailleurs, sachez qu'on reprend les habitudes de Roten sans flamme, les rendez-vous habituels, Julien Cazard à 18h45, faites entrer l'accusé à 18h30, le ring des supporters à 19h30, on reprendra toutes nos habitudes. Julien sera là en attendant tout à l'heure à 19h30. À 19h35, on lancera...
Le quiz aussi ?
Alors, le quiz, a priori, non, Jean-Michel.
Le quiz, non, on a.
Après, si t'y tiens, tu peux insister auprès de la rédaction.
Bah non,
de
chaque direction. Il a pris. Contre le reste du monde, Roten contre le reste du monde, il a perdu tout le temps, la semaine dernière.
Ouais. Non, mais là, écoute, on reprendra les quiz quand j'aurai fini les shoppings. Je suis en train d'acheter les cadeaux. Pour les quiz. Ouais, parce qu'on n'a rien pour l'instant. Donc,
et l'invitation.
J'ai hâte que tu nous régales.
Moi, j'attendais que Luc Panier arrive avec des cadeaux. Mais
Luc Panier, notre responsable de la production, d'accord.
Il a rien du tout.
À 19h35, Jérôme, tu vas nous dire pourquoi il faut arrêter d'attendre du spectacle avec le Portugal. On lancera comme ça le Portugal-Uruguay de ce soir, le dernier match.
Qui doit nous dire ça ?
Jérôme, c'est son métier de nous dire les choses.
Ouais.
Il est là pour ça.
D'anticiper.
Juste avant qu'on parte sur l'équipe de France et sur Mbappé, Daniel, on sort du match du Brésil. On l'a suivi en intégralité. Tu sors de là en te disant de plus en plus que c'est le favori pour la victoire finale ? Où il y a des petites choses qui te posent des soucis encore dans cette équipe.
Franchement, ils m'ont pas fait plus forte impression que les Bleus ou l'Espagne. Hein, entre les Bleus, l'Espagne, même dans une certaine mesure, je suis pas sûr que le Brésil se balade devant l'Allemagne, qui va maintenant être revigorée et qui va passer en huitième. Le Brésil de ce soir, je vais te dire. Non seulement j'étais persuadé que les Suisses pourraient vraiment les embêter, mais j'aurais presque même parié qu'ils n'allaient pas les battre. Bon, finalement, ils les ont battus, et c'est pas immérité parce qu'ils ont quand même fait l'essentiel du jeu. Mais je savais qu'ils buteraient contre cette équipe, qui est quand même désormais une nation solide en Europe. Bon, ils ont été délivrés par un très beau but de Casemiro. C'est pas, tu vois, en plus... un attaquant qui a fait la décision.
Ouais.
Je pense qu'ils sont quand même bien handicapés par l'absence de Neymar. Ils ont pas une équipe qui est absolument virevoltante, hein. En termes de créativité. Ils ont choisi de remplacer Neymar par un milieu de plus.
Oui, mais est-ce que justement le fait qu'il soit solide, c'est pas le meilleur argument pour aller loin. Parce que là, ils sont vraiment solides. Hein. Les autres ont pas beaucoup d'occasions. C'était le cas contre la Serbie, là aussi. Mais souvent que c'est ça la clé pour aller.
Mais je sais pas si ils sont solides défensivement ou si c'est parce que les autres, quand ils jouent contre le Brésil, se bloquent un petit peu et pensent avant tout à défendre.
Ah, voilà,
c'est ça. Mais quand ils joueront,
le but d'un match de foot, Daniel, on est d'accord. Hein, même si la Suisse est pas favori sur ce match ou pour parler des autres qui ont joué dernièrement les Brésiliens, n'empêche que ils espèrent gagner, ils espèrent attaquer, et les mettre en difficulté et que le Brésil. Sur les deux premiers matchs, concèdent. Là, j'ai regardé, ils ont concédé un tir cadré sur l'ensemble des deux matchs. Donc, c'est quand même une performance. Ça veut dire qu'ils arrivent quand même à la perte de la balle quand ils sont pas flamboyants comme aujourd'hui. Parce que là, je te rejoins en termes de créativité et même la première mi-temps contre les Serbes. On peut pas dire qu'on s'est régalé. Alors,
c'est vrai qu'ils jouent aussi contre des équipes qui ont un peu la trouille, voilà, et qui bloquent un peu contre elles.
Ils ferment des équipes capables de les mettre en difficulté aussi.
Et oui. Allez, on arrête là sur le Brésil. Rendez-vous vendredi prochain pour le dernier match de phase de
poule
du Brésil. Brésil-Cameroun, ce sera à 20h au stade de Lousaille, où on va tout de suite, messieurs, puisque Jeannot Rességuier nous appelle pour Portugal-Uruguay, le match de 20h avec les compos d'équipe. Salut Jeannot.
Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
avec des changements
avec
notables.
Trois changements, dont deux par obligation pour le Portugal, pour Fernando Santos. Danilo Pereira, trois côtes cassées, au repos au moins jusqu'au huitième de finale. Et Otavio, touché à une cuisse, disparaît du 11 de départ par rapport au match contre le Ghana. Nuno Mendes, le Parisien, prend la place de Guerrero à gauche de la défense. Il a repris avec le groupe hier après une fatigue musculaire. Ça nous donc Diogo Costa dans les buts, Ruben Diaz et Pep pour la charnière, Nuno Mendes à gauche, Cancelo à droite, trois milieux de terrain, Ruben Neves, Bernardo Silva et William Carvalho, et trois offensifs, João Félix, Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo dans l'axe avec le brassard de capitaine pour Diego Alonso. Cavani sera titulaire ce soir à la place de Suarez dans un système différent, 4-4-2 par rapport au 0-0 face à la Corée du Sud, et Varela prend la place de Caceres sur le côté droit de la défense, et Coates à la place du jeune Pellistri sur le côté gauche offensif dans ce 4-4-2. Rocher dans les buts, de droite à gauche la défense de l'Uruguay, Varela, Godin, le capitaine Jiménez, Oliveira, Valverde, Betancourt, Vecino et Coates pour le milieu de terrain, Darwin Núñez et Cavani donc en pointe. L'arbitre est iranien, Alireza Fagani. Voilà pour les détails. Le stade est annoncé comme plein à ras-bord, c'est-à-dire pas loin de 90 000 spectateurs.
Ah oui, c'est... Très bien, merci Jeannot pour toutes les infos. Le match en intégralité.
Bizarre
à partir
que Suarez puisse pas enchaîner quand même. Physiquement, il est affûté.
Oui, c'est bizarre, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est la gestion. Ouais. C'est la gestion. Allez, tout de suite, on va passer au dossier Mbappé.
Il avait peut-être barbecue ce soir, non?
Non, mais je pense qu'il en a fait assez avant la compétition.
Peut-être. Oui, ouais. Le match face à la Tunisie, ça va être l'occasion de faire tourner, donc de faire rentrer des joueurs qui ont peu de temps de jeu. Du coup,
vous parlez des Bleus là.
Du coup, Mbappé, il y aura peut-être un problème de place.
Alors vous avez réglé ces problèmes de place.
Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil.
Non mais d'accord, bon, mais qu'il ne raconte pas des conneries.
Le centre, la tête, le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant, ça fait 3-1.
Mais notre objectif c'est le 8e, je ne vais pas prendre de risque, ne me demandez pas ce soir combien, qui, mais je ferai tourner.
Non, n'en faites pas trop non plus.
Il me fait les consignes, attends, dans les consignes, je chie dessus, ouais.
Ça faisait longtemps, Jean-Michel, qu'on l'avait pas repassé.
Ouais. Bah oui, depuis hier. Voilà. Oui, c'est très longtemps.
C'est un mois. Est-ce un risque?
Mais finalement, il a jamais eu les places dans cette histoire. Jamais eu la fin de l'histoire.
Non, il les a pas eu.
C'est terrible. Jean-Michel, on n'a pas eu des places.
Non, c'est le pauvre Laurent qui a récupéré les places.
Moi, j'en demandais pas, moi. Tu penses bien que tu n'avais pas d'amis.
Ah oui.
Laurent Petit.
Un jour, Jean-Michel nous a raconté pendant un quart d'heure toute l'histoire.
Ah ouais, c'était magnifique. Ah,
bon. On va pas le faire aujourd'hui. Enfin, c'était un croquage de place, quoi.
C'était bataille de croquage de place.
Voilà. Grosso modo,
il y en a souvent en Coupe du Monde. C'était même pas ça. Bon. Ouais. C'était une incompréhension générale. Et Jean-Michel ne sait pas les
d'ailleurs, j'ai enfin réussi à en croquer pour aller voir Tunisie-France.
Oui, mais bon, après, c'est parce que tu veux pas te déplacer, tu veux rester dans le studio, t'as peur d'aller au stade. C'est ça la différence.
On a des émissions, Jean-Louis. Hein.
Tu me fais pas des consignes quand même.
Ouais, je pourrais pour le coup.
Mbappé, messieurs. Est-ce que ce serait un risque inconsidéré de l'aligner face à la Tunisie, alors qu'on est qualifié, alors qu'on est quasiment sûr de finir premier? On va en parler avec Fabrice Hawkins qui nous rejoint, qui suit l'équipe de France au quotidien. Re-salut Fabrice.
Ah, salut à tous.
Salut Fabrice.
On fait ce débat parce qu'il y a un truc dont on est quasiment sûr, c'est que Mbappé veut jouer ce match.
Oui, parce que Kylian Mbappé veut jouer tous les matchs. C'est un compétiteur hors pair, on le sait, selon nos infos. Il est parti pour commencer le match, donc titulaire contre la Tunisie, malgré le gros turnover qui sera opéré par Didier Deschamps. Plus de la moitié de l'équipe devrait être renouvelée par rapport au match face au Danemark. Kylian Mbappé adore les statistiques. Il a égalé le nombre de buts de Zinedine Zidane avec son doublé contre le Danemark. On le rappelle, 31 buts avec les Bleus, et il veut poursuivre sur sa lancée. Au PSG, la question s'est posée plusieurs fois cette saison. Il a démarré un seul match sur le banc en championnat. Kylian Mbappé sur la touche au coup d'envoi, c'est très rare. Souvenez-vous, juste avant la Coupe du Monde, il a enchaîné contre Lorient et contre Troyes, deux équipes largement à la portée du PSG sans l'international français. Mais Mbappé était bien content de jouer et de marquer.
Alors Jérôme, est-ce que ce serait inconsidéré de le faire jouer et donc de ne pas aller contre sa volonté puisque lui veut jouer? Qu'est-ce que tu ferais à la place de Deschamps?
Moi, je le ferais jouer, il est jeune, il se connaît par cœur. Et puis d'autant plus lui, je crois que c'est un robot. Il est formaté pour ça, pour les grandes compétitions, pour marquer l'histoire du football. C'est comme ça, il y en a pas beaucoup dans cette catégorie-là. Lui, il fait partie de ça. La pression, elle était énorme au début de la compétition aussi sur lui, même avec la présence de Karim Benzema. Quand certains disent Karim est parti, donc là il est tout seul aujourd'hui un peu, et puis il est bien content. Je pense qu'il avait ce rôle-là déjà, même avec la présence de Karim dans tous les cas, et que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler avec lui. Et avant la compétition, il y a même quelques semaines, donc c'était pas encore demain hein, la Coupe du Monde, et je me souviendrai toujours où il me dit oui, je me prépare et je serai à fond. Et ben moi je le trouve à bloc physiquement, je le trouve à bloc techniquement, je le trouve à bloc.
Ça veut dire qu'il faut pas le gérer. Mais en parce fait, qu'il a quand même un jeu basé aussi sur le physique, ses courses, ses sprints. Tu le dis toi-même que son style de jeu requiert beaucoup physiquement. Donc est-ce que là on a une opportunité quand même magnifique de faire tourner.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en fait ce que tu dis, parce que déjà on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son corps, et la seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est que il se sent très bien. Il est pas du tout fatigué. Il y a aucune fatigue. Donc ça, cette discussion-là, il l'a pas eu qu'avec moi ou avec des proches ou quoi que ce soit. Il l'a eu avec son sélectionneur. Et que cet échange-là, c'est ce genre de joueur, c'est qu'est-ce que t'estimes? Que ce match-là, c'est un match cacahuète. Est-ce que t'as envie de le jouer pour continuer à faire tourner le compteur? Ou est-ce que t'as envie de te reposer pour te préparer en effet sur le match de huitième, parce que c'est celui-là le plus important.
Mais le plus important, c'est pas qu'il finisse meilleur buteur, c'est que la France soit championne du monde.
Le plus important, c'est qu'il arrive à chaque match coup près, c'est-à-dire au match de dimanche, pas celui-là de mercredi, en pleine forme. Est-ce que toi, comme moi, comme Daniel, comme Jean-Michel ou d'autres, dans sa tête
pour dire
non, c'est mieux
qu'il... Mais pour toi, il y a plus de chances qu'il arrive bien dans les matchs coup près s'il joue et qu'il enchaîne.
Il est dans la force de l'âge. Il est dans la force de l'âge physiquement. Il est à 23, 24 ans, 25 ans. C'est tes plus belles années.
Okay.
Donc tu récupères facilement. C'est dans la tête. Et puis encore une fois, je te dis, c'est difficile de. Moi, je compare par rapport à ce que j'ai vécu. Mais on parle de Kylian Mbappé. Donc faites-lui confiance. Et je suis sûr qu'il arrivera comme un boulet de canon encore dimanche.
Daniel, t'es d'accord avec Jérôme ?
Oui, je comprends tout ce que dit Jérôme. Je suis plutôt d'accord avec lui, effectivement. Après, je peux également, la seule réserve, le seul bémol que je vais apporter à ça, c'est si je suis entraîneur, je m'assieds sur le banc, je comprends tout ce que dit Jérôme et donc je comprends tout ce que veut faire Mbappé. Et ça ne me gêne même pas qu'il chasse les records en même temps que l'intérêt du collectif. J'aimerais ne pas m'angoisser en me posant le cul sur le banc en me disant pourvu qu'ils prennent pas un sale coup.
Bah, c'est pas rien quand même.
Et c'est pour ça que j'apportais un bémol. C'est aller m'asseoir avec le bide un peu noué en me disant pourvu qu'ils prennent pas un sale coup face au Neymar ou j'en sais rien. Tu vois, même pas blessure musculaire, juste le sale coup qui pour le huitième fait qu'il est diminué. Mmh. Et je crois qu'au final, si je suis entraîneur, je dis Kylian, vraiment, tu crois pas que si on peut, même s'il y a, je pense pas qu'il y ait des probabilités sur un risque de blessure pour un joueur, mais même si c'est 2% de prendre un mauvais coup, est-ce que tu as envie qu'on le prenne
aussi, hein.
Je sais bien, mais donc inutile de rajouter dans la probabilité, inutile de rajouter un match où là la proba elle augmente un peu plus que l'entraînement.
Daniel, pour aller plus loin,
si je suis entraîneur, je me dis
dans ta réflexion,
évitons ça.
Dans ta réflexion, ça peut s'entendre. Mais moi, je vais te dire, tu peux te blesser à l'entraînement. Et pourquoi je te dis ça? Pas sur des séances où tu gères. C'est que le match, ils ont joué samedi. D'accord?
Ouais.
Donc si, dans son esprit, Didier Deschamps, il se dit, Kylian, il ne jouera pas contre la Tunisie. Ça veut dire que le match dimanche, c'est 8 jours après. Ça veut dire qu'il est obligé de faire, sur les 8 jours avant cette rencontre contre je sais pas qui on va jouer.
Hein, en huitième.
Contre l'Argentine.
Je vais être obligé de lui faire 2 séances fortes.
Ouais.
Parce que c'est comme ça, comme quand tu prépares un match. Donc les séances.
J'entends bien qu'il peut se blesser dans la séance.
Les séances fortes, c'est mardi, mercredi, voire jeudi. Et après, tu récupères.
Et pour toi, la probabilité de se blesser dans ces séances, elle est identique à celle de se blesser dans un match.
Je pense très honnêtement, pour l'avoir vécu, que des fois, t'es tellement, dans ta tête, en dehors de la compétition, parce que tu te dis le match, il arrive, si tu te prépares pas le lundi pour un match le dimanche. et donc ça va monter crescendo. Et ben des fois tu vas à moitié sur les séances même fortes, et il suffit un mauvais coup d'un moment au mauvais endroit, et ça peut être problématique pour le match de dimanche. Donc là il va faire que de la récup et un match de compétition, c'est-à-dire le match de mercredi.
Bah alors, moi Jean-Michel, si la proba de blessure elle est inférieure à ce que tu viens de décrire, alors pas de problème.
Je pense oui.
Jean-Michel, t'es d'accord avec Jérôme à 100% ou t'es
à écouter les explications, les arguments de Jérôme et à écouter les arguments de Daniel, on aura bien compris que personne ne connaît la solution idéale et que la solution idéale, on ne la connaît pas. La solution idéale, alors je te rassure, Daniel, oui, il y a une probabilité pour qu'il se blesse, ça c'est sûr, ça existe. Ce sont des choses qui existent, malheureusement. Ben oui. Elles existent. Bon, et tu as raison de dire qu'il y a une probabilité. On ne sait pas si elle est de 2, de 10, de 5%, mais la probabilité, elle existe. Il y a aussi la probabilité qu'un match comme celui-là, Kylian Mbappé, alors c'est vrai qu'on va rejoindre les stats plutôt individuelles que le collectif, en admettant qu'il arrive à mettre un but dans ce match-là, tu vois dans quel état il va aborder le huitième de finale. C'est quelqu'un qui sera gonflé à bloc, même s'il ne joue qu'une heure. Donc il n'y a pas de solution idéale. Et alors rêvons à l'idéal. Ce serait que Mbappé joue 45 minutes ou une heure, qu'il marque un but et puis que en pleine forme et en pleine confiance ils sortent à ce moment-là.
Voilà, mais alors, en suivant votre raisonnement, Deschamps, il fait une erreur en faisant tourner la moitié de l'équipe puisque on se dirige là-dessus.
Mais c'est pour ça que
je reviens là-dessus. C'est normal que tu économises puisque visiblement le milieu de terrain aux deux tiers ou en totalité va être renouvelé. C'est normal que tu fasses sortir des joueurs qui courent beaucoup au cours des deux rencontres, que ce soit Griezmann, Tchouaméni ou Rabiot. C'est normal.
Ouais. Après, ils vont faire une grosse semaine sans jouer. Vous allez me dire qu'ils vont manquer de rythme. Le raisonnement s'applique pas sur les milieux, Mbappé.
Pas du tout. Et puis après, il y a là ce que pense Didier Deschamps. Déjà parce qu'il y a une gestion d'effectifs. Et on parle d'une compétition où t'es obligé aussi d'incorporer des joueurs qui n'ont pas joué, parce que mentalement c'est intéressant. Et je peux te dire, je suis bien placé pour savoir parce que j'ai vécu cette position-là d'être coiffeur. Ça c'est le terme les remplaçants de l'équipe de France depuis X années. C'est pas péjoratif du tout. Hein. C'est comme ça. Et donc automatiquement, quand t'as la possibilité d'avoir du temps de jeu, vaut mieux la donner.
Ouais.
Et c'est même dur. Quand tu es un joueur qui n'a pas joué, de ne pas encore jouer sur ce match où il n'y a pas d'enjeu. Donc ça, c'est juste à Didier Deschamps de se rendre compte de ça. Et après, il y a qu'est-ce qu'il met en place pour savoir si c'est aussi le joueur qui décide s'il joue ou pas. C'est les statuts. C'est simple. C'est Hugo Lloris, dans l'état où il est. Est-ce qu'il a envie de laisser à Mandanda ? Apparemment, c'est le cas. Donc, il va être de côté.
C'est Varane, bien pour Mandanda, quand même. C'est
oui, oui, non, mais exactement.
Fabuleux. Et en plus, il le mérite. C'est pas uniquement une récompense comme ça, une médaille en chocolat. Il le mérite, Mandanda, sur ce qu'il a fait depuis le début de la saison avec Rennes.
Exactement. Après, t'as le milieu de terrain. On parlait du milieu. Bien sûr qu'ils courent beaucoup. Bien sûr qu'ils doivent être peut-être plus fatigués qu'un attaquant ou un défenseur d'axe. Pas de souci. Mais est-ce que aujourd'hui, les milieux de terrain, mis à part Rabiot, qui montre des choses intéressantes depuis le début de la compétition et qui est le meilleur milieu de terrain depuis le début. Griezmann, oui, parce que ça va de mieux en mieux. Mais encore une fois, je pense que c'est bien de donner du temps de jeu.
Le meilleur milieu de terrain, on est d'accord que c'est Griezmann.
Ouais, ouais.
Non, il y a pas le. Ouais. C'est Griezmann.
Écoute, c'est moi.
Ah, Jean-Michel, je suis un guest dans l'émission, mais je me dresse donc au pilier. Est-ce que tu peux dire à Jérôme que son ouais est pas bon?
Ouais, c'est Griezmann, Daniel, avec un radio.
Jérôme et Jean-Michel, c'est la bande habituelle. Ouais. Vous êtes une bande.
Vas-y.
Mais Daniel, oui, on est une bande. Oui, c'est Daniel. Oui, Griezmann, c'est Griezmann. Mais Rabiot, lui, chatouille les chevilles quand même. Hein, c'est pas mal ce que fait Rabiot et c'est surprenant.
Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai dit le meilleur, c'est Griezmann, c'est tout.
Daniel, je pense que t'es dithyrambique sur Griezmann et t'as le droit. Moi, je pense honnêtement que Griezmann doit encore s'améliorer sur des choses. Quand
j'espère.
Oui, il doit s'améliorer sur des choses. Il a été décisif sur le dernier match, et tant mieux. Et c'est là qu'on l'attend, à donner beaucoup plus de passes décisives, à prendre beaucoup plus de risques et pas que jouer sur des passes à 2 mètres, parce que le style espagnol, c'est pas du tout le style français. Donc déjà, et puis d'autre part, il se bat sur le terrain, il y a pas de souci. Mais je trouve que par moment, en effet, dans la relation entre le milieu et l'attaque, eh ben, il disparaît un peu trop encore. C'est beaucoup mieux que ça a été, et ça, il faut le reconnaître. Je pense
il
que son dernier match...
Il compense peut-être les insuffisances de Tchouaméni. Je reviens là-dessus.
Ouais, c'est vrai.
Peut-être
c'est vrai.
Une fixette là-dessus. Alors, mais...
et, on a un peu dévié.
Et pour dire, non, mais juste pour répondre à Daniel, sûr. Pour dire que la deuxième mi-temps de Griezmann, là, il est dans une position que j'aime beaucoup plus. Plutôt que reculer quand tu es sur la même ligne que certains, que tu te projettes pas assez, que tu n'es pas assez dans les 30 derniers mètres, ça c'est problématique, Daniel.
On et
que
Rabiot, refaire le débat Griezmann,
Rabiot
en
il
détail.
A été décisif, ultra décisif sur le premier match, vraiment.
Oui.
Et sur le deuxième match, pendant une mi-temps, il a été très bon. Oui. C'est un peu éteint en deuxième.
Moi, j'ai pas dit qu'il n'était pas bon. Hein.
Sur ce débat équipe de France, on aura le temps d'en reparler d'ici au match face à la Tunisie, le dernier match de poule des Bleus et le 8e, évidemment, oui. Qui va se profiler. On revient dans une seconde avec le Casar enchaîné et puis on lance le match du soir. Portugal, Uruguay, bien sûr, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Mi Tour, Jérôme Roten.
19h24 à Doha, non à Paris, 21h24 à Doha. Ouais, je me suis fait piéger. On aurait dit Jean-Louis Tour. Avec Jean-Louis Tour.
Comme arrivé une fois,
sur RMC.
Pas,
on est avec Jean-Michel Larquet, avec Daniel Riolo, et puis surtout, on va recevoir Julien Cazard.
Oui. Et puis, on va lancer aussi le match du soir parce que c'est jamais fini cette Coupe du Monde.
Ah,
c'est la dernière journée à 4 matchs, hein, donc profitez-en. Le Brésil s'est imposé 1-0 face à la Suisse et à 20h, c'est Portugal, Uruguay. Jérôme va nous dire qu'il faut arrêter d'espérer du spectacle avec ce Portugal.
Avec Santos, surtout.
Ce sera tout à l'heure, mais tout de suite, l'artiste est de retour.
RMC, Roten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Elle va nous manquer cette musique, putain. C'est vraiment, on s'en lasse pas. Ça fait que même pas 2 matchs qu'on passait. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir au taulier et à la pièce rapportée, évidemment, parce qu'il en faut. Nous sommes le lundi 28 novembre 2022.
Comment ? C'est Jean-Michel la pièce rapportée ?
C'est pas Daniel ? Il est déjà parti, lui.
Il fait des petits tours.
Il est là, un coup il est au poker, un coup il est au bistrot, voilà. Sur le toit terrasse, mais après ça reste la vie privée. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 28 novembre 2022 et la France est déjà quasiment qualifiée première de son groupe, pratiquement c'est fait. Une vraie chance de tomber contre l'Arabie Saoudite ou la Pologne en 8e en plus.
Et on est champions, et on a gagné, c'est génial, il n'y a personne en face, glorieux. Pas de suspense et on s'en va, c'est dur. Vous préférez l'ice là?
Ouais, c'est vrai que ça commence à me verger à chier. C'est pas drôle. Je suis désolé, hein. Je vais casser l'ambiance, mais moi, ça me fait pas marrer. Ça me saoule, en fait. C'est même pas drôle. On n'a pas tremblé une seule fois, Jean-Louis. Jérôme, Jean-Michel, on n'a pas tremblé. On est pratiquement en quart, là.
Ça arrivera après.
Mais non, mais attends. On est là, vu qu'on va se taper une équipe en bois en 8e, parce que t'as vu l'équipe, le groupe d'en face, c'est carrément une catastrophe.
Donc... quand même.
Bon. Ouais, je vais m'étouffer. Déjà, quand ils étaient forts, on leur mettait une branlée, mais on va faire quoi, là? Il n'y a pas de suspense. On est déjà en quart. On veut des émotions, on veut du drame, on veut de la peur, on veut de l'angoisse, Jean-Michel.
Julien,
toi, t'as connu
si
ça.
C'est l'Argentine, ça va être fantastique. Avec tous les Argentins.
Mais ça sera pas eux, mais non, vous le savez, ça sera pas eux, ça sera une équipe en carton qu'on va se récupérer.
L'Arabie Saoudite, Hervé Renard, c'est l'histoire, c'est sympa quand même.
Mais oui, mais une fois qu'ils seront en 8e, ce sera fini, ils auront fini leur Coupe du Monde et nous, on va passer, on va être en quart. C'est pas glorieux, putain. En plus, on va faire tourner contre la Tunisie. Franck, on va faire tourner contre la Tunisie le 3e match. Si c'est franchement ça vous aide, on dirait le PSG en Ligue. Super, on a mis une branlée à Brest. Il n'y a pas de saveur, on va faire quoi jusqu'en quart? C'est le 8 décembre, putain, c'est loin. Quand je vois les Belges, oh la chance. Eux, ils ont perdu contre une équipe moisie. Ils sont au bord de la dégringolade. Il y a une ambiance de merde, ils se tirent dans les pattes. L'équipe est vieillissante, les gars ils vivent 2002 et 2010 en même temps. Putain, c'est beau. Oh, pourquoi on n'a pas Roberto Martinez? Le mec c'est un mix de Domenech, Solskjaer, Pochettino, Ripoll. Oh là là. Zéro palmarès, pas de charisme, zéro résultat, zéro idée, pas d'influence sur l'équipe. C'est un génie ce mec. Moi je veux lui. Je peux vous dire qu'en Belgique, on en vit des émotions. Je suis dégoûté. Bon, les sommaires. Nous reviendrons bien entendu sur cette défaite de la Belgique qui a fait du bruit chez nos collègues d'outre-Quivrain, comme on dit là-bas. Défaite 2-0 face au Maroc. Les Belges qui ont mal vécu cette défaite puisqu'ils ont fait des émeutes dans la ville. T'as vu, ça a cassé de partout. Ils ont créé des troupes. Ça a été un bordel, Jean-Louis.
Non,
qu'en
fait, hein, non mais c'est pas que c'était les supporters du Maroc, Julien. Qui étaient sortis pour
fêter. Ah oui, non. Oui, t'as cru ? Non, c'est pas ça. En fait, c'est les Belges. Ils sont comme tout le monde. C'est comme pour les livraisons, les taxis. Et le SEM, en fait, ils sous-traitent. C'est Ubersom. Quand t'es vénère, t'as une appli, Ubersom, et t'envoies un mec à ta place pour tout péter, mettre le feu aux bagnoles, et c'est hyper pratique. Alors, tu croyais que c'était d'autres mecs qui faisaient la fête ? Non, c'était eux. Ils sont vénères. Et c'est, je me dis que nous, on devrait déjà préparer l'appli Uberwin dans le cas où la France gagne la Coupe du Monde, parce que moi, j'ai pas envie. Moi, ça me fait même plus marrer. On gagne tout le temps. Comme ça, les mecs qui descendent à notre place. Moi, je sais pas. Toi, t'as envie de la fêter cette Coupe du Monde ? Ça, on a déjà gagné. Jean-Louis, quoi. Franchement, ça me fait pas du tout rire. Mais non, c'est nul. Finalement, l'analyse.
Gagner, arrête. Mais oui. La guigne.
On va gagner. Mais bien sûr qu'on va gagner. Ça va même pas trembler, Jérôme. Ça me déprime, putain.
Et le quart de finale contre l'Angleterre. Imagine.
Moi, non, les Anglais, ils sont nuls. Tu sais quoi, moi, j'espère peut-être un retour de Benzema. Un retour de Benzema pour foutre une ambiance. Non. Cela dit, la plus belle analyse de l'équipe de Belgique, elle est encore de. Elle vient de chez nous. Et qui c'est qui l'a donné,
ah oui,
à votre avis
sûr.
C'est Manu. Manu Petit, bien sûr.
Quand je regarde la Belgique tout à l'heure, c'est une équipe de vieillards. On dirait qu'elle sort d'un iPad.
Qu'est-ce que l'iPad ? L'iPad est beau. L'iPad va partout et dure toute la journée.
Elle sort de l'iPad. C'est vrai qu'elle sort de l'iPad. Alors moi je pense pas que. Alors honnêtement, si l'équipe de Belgique elle sort de l'iPad, ça serait étonnant parce que l'iPad c'est ça.
C'est incroyablement puissant.
Ah
c'est magique.
Ah non.
C'est déjà une révolution. Et ça
ah oui,
ne fait que commencer.
Ah bah oui, bah non, c'est pas
alors
ça.
C'est pas l'iPad.
Ou alors peut-être qu'ils voulaient dire qu'ils sont dans le métaverse, tu sais, dans un monde virtuel. Effectivement, dans un monde virtuel, la Belgique, ils sont forts. Ils sont très très forts. Il y a une équipe qui a été la surprise de cette Coupe du Monde, c'est bien l'Arabie Saoudite, dont tu en parlais, hein, qui nous fait. On en rêverait de ce France-Arabie Saoudite, puis ça nous permettrait d'être déjà en quart, qui a battu l'Argentine dès le premier match et qui n'a pas démérité contre la Pologne au deuxième. On se souvient de la causerie à la mi-temps d'Hervé Renard. Qui hurle en anglais, traduit par le traducteur, mais c'est génial. Alors, ça a moins bien marché au deuxième match. Pourtant, il était aussi énervé. Hein, oui, on a le son. Ah oui, on a le.
Génial.
Ah, c'était génial. Écoutez.
Are you kidding me?
Vous avez mangé des pudding à midi?
You are all a piece of shit, a bloody motherfucker!
Vous avez fumé du shit, vous êtes tout blanchi là, enfin mettez-y du cœur!
All bastard motherfucker!
Allez, bastard, mettez-y du cœur!
What do you expect?
Et vous l'avez fait exprès?
You think Lewandowski will just sleep in the second half?
Il y a trop de vent pour faire du ski, vous êtes en slip et vous vous prenez pour Gandalf!
You came back last day, but now it's a shame!
C'est les Black Friday, là, chez H&M!
Think about the people you play for!
Et pensez aux people qui payent des petits fours!
I am disgusted!
Et qui aiment déguster!
Fuck you, overall!
Et on se retrouve dans le hall!
Yes, understood!
Yes, c'est.
Franchement,
bravo Julien.
Je me demande.
Enfin, bravo
si
Hervé Renard.
Je suis pas sûr du traducteur. Je pense qu'il est encore bien. Cette Coupe du Monde, c'est aussi la Coupe du Monde des commentateurs. On a les meilleurs, on le sait. Et forcément, les autres, ils n'arrivent pas à nous les piquer parce qu'ils sont trop chers. Et alors, mais ils essaient de nous imiter. Tu te rappelles de Jérôme Sion qui avait refait le même commentaire du but de Mbappé contre le Real. Il dit ouais, c'est pour toi Kylian devant ton public destin, comme le but était hors jeu, il a refait le même commentaire. Ah ben il y a les mecs, ils ont une autre technique, c'est-à-dire qu'imagine tu commentes un match, tu commentes un but d'Aboubakar, c'est génial, mais malheureusement il est annulé, écoute.
Aboubakar en un contre un, la fin d'Aboubakar. Oh la louche, le but de légende.
Ah, merde. Et il dit le but de légende. Putain, tu dis franchement, il était bien son le but de légende. Alors oui. Là où il est bon le mec, c'est que derrière, bah, le but il est revalidé par la VAR. Et il se démonte pas le gars, il est bon.
On est en train de vérifier parce que leur jeu est peut-être pas si net que ça. Et moi je dis qu'il y a but. Le but de légende.
C'est génial, les y putain, je me suis fait niquer une fois, mais je le retente. C'est beau, c'est ça l'école Jérôme Sillon. J'ai envie de te dire, il est à 7 sur 10. Moi, je pense qu'il est à 7 sur 10 sur l'échelle de. Vous le savez. Bon, on l'a pas. C'est pas grave, sur l'échelle de Jérôme Sillon. Eh ben, je reviens demain. Allez, moi, je suis fatigué. Je suis comme Neymar.
Merci, allez, Julien. Allez,
le casar enchaîné.
Et je fais un petit rectificatif, France-Brésil ne sera pas avant la finale.
C'est la finale.
Si le Brésil finit bien premier de son groupe.
Tableau, voilà. C'est bien France-Angleterre, si tout va bien en quart.
Exactement, voilà. Et ensuite, on verra pour la suite en fonction des premiers.
On verra, ça se trouve, ça sera pas France-Angleterre, ça sera une autre équipe. Peut-être. Et comme en huitième, on sait pas. Et puis, c'est magnifique. Écoute, c'est la Coupe du Monde. On s'éclate, Jean-Louis.
C'est vrai qu'on se régale. On se régale et on vous régale. Puisque on félicite le vainqueur du jour qui a gagné son maillot du Brésil. C'est Sébastien qui a gagné le maillot du Brésil grâce à notre partenaire.
Bravo, Sébastien.
Gagnez votre maillot sur RMC avec Foot Corner. Jusqu'à 70% de réduction sur les plus grandes marques de sport, c'est la Black Week. Jusqu'au 28 novembre sur footcorner.com.
Julien Cazard qui sera de retour demain 18h45, notez-le bien. Vous pouvez podcaster les Cazards enchaînés, bien sûr. Passez dans une seconde. Roten s'engage autour du Portugal. Arrêtez d'attendre du spectacle de cette équipe. On lance Portugal-Uruguay ensemble dans Roten sans flamme. À tout de suite.
RMC, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
19h37 dans Roten sans flamme, bien sûr, 21h37 à Doha. On est là avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larquet et avec Daniel Riolo. On va continuer, Jean-Louis. Bah, c'est bientôt le match de Portugal-Uruguay. Bah, ça tombe bien, on va en parler, Jean-Louis.
Allez, on y va.
RMC, Roten sans flamme.
Roten s'engage.
Alors c'est un peu toujours les mêmes débats autour de cette équipe du Portugal, Jérôme, on se dit qu'il y a un matériel offensif énorme, et du coup on est toujours un peu frustré. Mais en même temps, si on arrêtait d'attendre du spectacle, ça changerait les choses, non ?
Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on a toujours les mêmes réflexions de toute façon, et il faut s'y faire avec ce sélectionneur. Alors tu vas me dire, Didier Deschamps qui a été critiqué durement par moment dans son style, a montré aussi qu'il pouvait faire évoluer les choses. Hein. Il a essayé avec plein de joueurs, il a, sur le début de la compétition, on peut pas dire qu'on n'est pas une équipe qui est agréable à voir jouer. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a quand même des choses qui se passent avec des joueurs offensivement, avec plus de talent et de qualité technique, donc ça fait la différence, et ça aussi, ça transforme un entraîneur. Et que c'est pour ça qu'on est souvent sur le fait que au Portugal on a envie que ça s'éclate, parce que Joao Félix, parce que Ronaldo, parce que Bruno Fernandes, parce que Bernardo Silva sont des bons joueurs de ballon. Les latéraux, on peut pas dire que Mendes peut pas apporter, Cancelo aussi peut le faire. Donc on attend à ce que ça joue haut, qu'il y ait des prises de risque, ça soit spectaculaire, et souvent on est un peu déçu parce que, très honnêtement, je pense que le plan de Santos depuis pas mal d'années, et de toute façon il a gagné aussi l'Euro en 2016, et c'est pour ça que ça lui donne raison et qu'il continue là-dessus, c'est d'avoir une équipe chiante à jouer. Voilà, et pour l'adversaire, donc compliqué de trouver des espaces, et c'est un peu au détriment de la qualité technique en effet de certains joueurs au Portugal. Donc arrêtez de croire que ça va être fantastique, déjà que le Portugal continue à gagner et avance comme ça.
Eh ben, on peut faire confiance au moins aux individualités.
Oui, parce qu'ils se cachent trop. Il y a certaines, et c'est là que je suis déçu, et souvent les déceptions elles viennent de là, ils se cachent trop certaines individualités par rapport au plan de Santos. Au d'un moment, dans ce plan-là, qui est peut-être très défensif, oh, t'as le droit de prendre le jeu à ton compte, t'as le droit de montrer une vraie personnalité, et c'est ce qui manque un peu de la part de certains joueurs au Portugal.
Daniel, faut arrêter d'espérer du spectacle avec ce sélectionneur et cette équipe.
Oui, j'ai entendu.
Ce qui veut pas dire qu'il faut pas espérer une vite des victoires, hein, mais.
Non, bien sûr. J'ai entendu un long développement de Jérôme qui aurait pu se résumer très simplement en quelques mots. N'attendez rien du Portugal, c'est du pouce-ballon parce qu'ils ont un entraîneur qui est bidon. Parce que la seule réalité.
C'est un peu plus argumenté quand même, hein.
La seule réalité, c'est qu'ils n'ont pas d'entraîneur. Ils ont un accompagnateur, ils ont un géo qui est là, qui ne sait pas véritablement quelle équipe aligner. Il aligne des statuts, il met Ronaldo en premier nom sur la feuille, il fait jouer les plus expérimentés, parce que moi je veux bien, mais s'il y a personne de meilleur que Pep, qui bientôt a fêté ses 52 ans, à mettre en défense centrale, j'y crois moyennement. Donc vous avez là un géo qui mange et m'a mangé toute sa vie sur le succès arraché en 2016, qui est historique pour le football portugais. Et bien sûr, mais on se souvient tous ce que ça avait donné en termes de jeu. Ça arrive une fois, à un moment il faut changer les choses, lui ne change rien. Et cette équipe avec les talents qu'elle a, elle propose rien, que dalle, néant, vide. Voilà.
D'accord.
Jean-Michel.
Juste Pep, il a presque 40 ans.
Et c'est extrêmement décevant. Et 40 ans pour un joueur de foot, c'est 60 ans pour moi.
Il a 39 ans et 6 mois.
C'est vrai qu'il y a 70 ans,
je pourrais jouer encore. Limite, je cours comme lui.
Non, quand même.
Jean-Michel.
Jérôme, il pourrait le passer. Deux jours d'entraînement, il le passe, côté gauche.
Arrête.
Jean-Michel.
Le Portugal a trop de bons joueurs. Trop de bons joueurs pour se contenter de ce qu'il donne à manger à ses supporters et aux autres qui aiment bien le football portugais. C'est pas possible. C'est pas possible de faire jouer Bernardo Silva, João Félix, Fernandes comme il les fait jouer. Alors l'exemple évidemment ça vient de derrière et quand tu retitularises Pep pour un match comme ce soir. C'est tout un symbole. Alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a retitularisé, parce que comme le dit, c'est l'accompagnateur, c'est un supporter privilégié, Santos, puisqu'il est tout à côté de l'équipe, mais on se demande ce qu'il fait, mais en tout cas, effectivement, on sent que c'est une équipe qui est toujours sur la retenue, qui veut être surtout emmerdante à jouer, alors qu'elle a toutes les qualités individuelles pour bien jouer au football, pour beaucoup mieux jouer au football et pour gagner les matchs autrement qu'elle les remporte aujourd'hui.
Allez, on va jouer sur cette rencontre tout de suite.
RMC, l'after sans flamme.
Pour représenter Rotten sans flamme, Jérôme Rotten. Pour représenter l'after, Gilbert Bribois nous rejoint. Salut Gilbert.
Madame, bonsoir.
Et coach Courbis qui va faire le match juste après. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Au milieu de tout ce beau monde, Yoann Guy est notre expert en Paris sportif.
Salut messieurs, salut à tous.
Alors les codes sur ce match.
1,95 la victoire du Portugal, 3,30 le match nul, 4,40 le succès de l'Uruguay. Là messieurs, je ne suis pas non plus franchement optimiste pour ce match, je ne vois pas un spectacle formidable. La première cote que je vous propose c'est le 0-0 à la mi-temps côté à 2,30. Et sinon, le Portugal qui ne perd pas avec moins de 2,5 buts dans le match, ça c'est à 1,90.
Alors comment on fait comment l'after? Vous êtes mis d'accord? Cette fois c'est Gilbert peut-être qui va trancher, comment on fait?
Ah bah alors je parle en premier.
Vas-y, on va voir si Roland valide.
Et bah moi, contrairement à notre expert des paris sportifs, et je m'autoproclame aussi expert des paris sportifs d'ailleurs, j'ai pas de raison. Moi je dis victoire de l'Uruguay avec un but de Darwin Núñez. Et je pense qu'on a une bonne cote. L'Uruguay va se réveiller ce soir.
Ah oui, ce serait énorme ça je pense.
Et Núñez Cavani là.
On va calculer ça.
C'est de la bombe.
Effectivement, c'est énorme.
C'est de la bombe, c'est du style, là, c'est de l'efficacité, il y a tout.
Alors là, je connais mon coach Courbis, je l'imagine pas valider un truc comme ça.
C'est 7-25 déjà. L'Uruguay plus Núñez buteur, 7-25.
Coach, 7-25, c'est... franchement, bon. Là.
Attends, on va voir si je connais mon coach Courbis. Je pense que ce sera plutôt le Portugal ne perd pas et les deux marques.
Dans un deuxième ticket, oui. Dans un premier ticket, j'ai écouté tout ce qui se dit sur le Portugal. Je suis en partie d'accord que le sélectionneur n'est pas un phénomène. Mais bon, il y a tellement de bons joueurs qui jouent dans des super clubs qu'ils savent quand même s'organiser et arriver à sortir un gros match. Donc, je ne m'imagine pas le Portugal perdre. Je m'imagine pas un match sans but, donc je partirai sur le Portugal qui perd pas avec plus de 1,5 dans le match.
Ah ok.
Alors le Portugal qui ne perd pas avec plus de 1,5 dans le match, ça va être à peine meilleur coach. Je pense qu'on va tourner aux alentours de 2,20. On est effectivement à peu près à 2,20, c'est ça.
Ok.
Voilà,
mettez-vous d'accord pendant ce temps.
Presque le même. Donc le Portugal qui perd pas.
1,60. Avec... Excusez-moi, j'ai mal lu la ligne, pardon, coach. 1,70 seulement, oui.
Voilà. Attendez, vous vous mettez. Oui, un petit ticket.
Et un Portugal qui perd pas avec les deux équipes qui marquent.
Et là, c'est à deux.
Celui-là, je le connaissais.
Ouais, mais du coup, on fait comment
alors? Je sais pas, mettez-vous d'accord. Mais Jérôme va vous donner le pari gagnant en attendant.
Le pari gagnant, ça va être Portugal qui va gagner dans la difficulté. Parce que très honnêtement, cette équipe d'Uruguay, elle est vieillissante, elle est pas bonne. Elle a perdu même un peu d'âme, tu vois, ce qui faisait d'elle une équipe chiante à jouer. Ils vont quand même s'accrocher.
Ouais.
Match nul mi-temps.
C'est la Belgique sud-américaine.
Ouais. Et victoire du Portugal en deuxième.
Côté à 4,30. Nul mi-temps plus le Portugal qui gagne 4,30.
Magnifique, Jérôme.
C'est offert.
Bon, comment on règle notre affaire là?
Non, bah,
qui a eu raison hier?
Vu que nous, on est deux. Et que Jérôme est seul, bah, il avait qu'à être deux. Donc du coup, si un de nos deux paris passe, c'est celui qui fera dans le point.
Mais ça va pas ou quoi?
C'est normal.
Bon bah moi j'en rajoute un alors dans ces cas-là.
Bah vas-y.
Voilà.
Vas-y, bah, t'en rajoutes un.
Et bah écoute, moi je vais rajouter le but de Ronaldo, tout simplement. Voilà. But de Ronaldo et rien de plus.
Combien
premier buteur Ronaldo dans le match.
But, alors attends, premier buteur Ronaldo ou Ronaldo?
Ouais, premier buteur.
Nous, on alors est des je fous. Te cherche ça. Premier buteur Cristiano Ronaldo 4,40.
Allez, on fait ça.
Nous, c'est pas des cotes à deux.
Hein. Voilà, allez, voilà, mais comment
on est sorti une cote à 7 et
comment on a régalé tout le monde. Oui, mais nous, elle passe. Allez, rmc-sport.fr pour les conseils.
Tu vois, moi, je suis un peu con. Je préfère gagner avec une cote à deux que perdre avec une cote à quatre.
Voilà, c'est ça. Allez, merci.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans une seconde, l'entrée des équipes, les hymnes, le coup d'envoi de Portugal, Uruguay. Rendez-vous demain avec des horaires nouveaux. Habituez-vous, les matchs à 16h, de 16h à 18h. Et Rotten sans flamme, version classique de 18h à 20h. Et si vous êtes arrivé en cours de route, les podcasts sont disponibles.
RMC, Rotten sans flamme.
Intégrale Coupe du Monde.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.